Voix Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir à tous et bienvenue dans Le Monde Aujourd'hui, édition du jeudi 4 mars 2021. John Linden à la présentation. Tout d'abord, les titres. Au Bénin, l'opposante Réki Ahmadougou a été placée en garde à vue. Sa candidature à la présidentielle d'avril a déjà été rejetée. Au Sénégal, l'opposant Ousmane Sonko a passé sa première nuit en garde à vue et des manifestations violentes ont éclaté dans plusieurs villes du pays. En Côte d'Ivoire, c'est le dernier jour de campagne pour les législatives prévues samedi. Le pape François entame demain une visite historique en Irak. Dans un message vidéo, il dit venir en pèlerin de la paix. Également dans cette édition, l'économie et les sports, mais tout d'abord, le journal. Une fois encore, bonsoir au Bénin. Donc, la police a procédé jeudi soir à l'arrestation de Réki Ahmadougou, candidate récalée à la présidentielle d'avril 2021. C'est au retour d'un meeting à Porte Novo avec d'autres candidats recalés, comme le professeur Joël Aïvo, que Madame Madougou a été arrêtée par la police et conduite à la brigade économique et financière. Les précisions avec notre correspondante à Cotonou, Ginette Fleur Adandé.
Depuis l'invalidation de leur candidature, c'est la première fois que Réki Ahmadougou du Parti des démocrates et Joël Aïvor du Front pour la restauration de la démocratie se retrouvent pour un meeting commun. Devant leurs militants, ils ont réitéré leur détermination à être présents aux élections, même si la Sénat, la Commission électorale nationale autonome, a rejeté leur dossier. Une décision confirmée par la Cour suprême. Pour Réki Ahmadougou, il n'est pas question qu'on prive l'opposition d'une seconde élection.
Ils font leur loi, mais nous avons nous-mêmes nos convictions que nous saurons défendre jusqu'à notre dernier souffle. N'avez-vous pas remarqué que vous avez beau avoir un parcours professionnel linéaire, dès lors que vous devez, opposant au Bénin ou candidat face à ce régime, vous devenez civilement terroriste. Je les attends. Qu'ils viennent me chercher. Nous serons leurs prisonniers pour délivrer ce pays-ci de vous.
Un vœu qui sera exaucé puisqu'à la sortie de cette conférence de presse, Réki Ahmadougou sera arrêté. Ce jeudi matin, le procureur spécial de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme, Mario Mentonou, a donné des explications sur les motifs de l'arrestation de l'ancien ministre. Il parle d'une implication dans une affaire de meurtre programmée de deux autorités avec conséquence immédiate, la déstabilisation du pouvoir en place. Présenté devant la criette ce jeudi matin, Réki Ahmadougou a été placé en garde à vue. De Cotonou, Ginette Fleur Adandé pour VOA Afrique.
Au Ghana, la Cour suprême a rejeté jeudi le recours du candidat de l'opposition John Mahama qui conteste les résultats de la présidentielle remportée en décembre par le président sortant Nana Akufo-Addo. L'accusation de bourrage des urnes n'a pu être étayée par des preuves crédibles. Nous n'avons donc aucune raison d'ordonner une nouvelle élection. Nous rejetons ainsi cette plainte car jugée sans fondement, a déclaré un juge de la Cour suprême à Accra. Au Sénégal, premier mort dans les manifestations contre l'arrestation d'Ousmane Sonko, principale figure de l'opposition. Un jeune a été tué aujourd'hui dans le sud du pays. Jacques Aristide.
Ce premier décès survenu à Bignona en Casamance. D'après un commandant de la gendarmerie, la cause n'est pas encore connue et une enquête a été ouverte. Quatre gendarmes ont été blessés dans les heurts, a-t-il ajouté, sans donner un bilan des manifestants blessés. La mort du jeune homme âgé de 20 ans a eu lieu au cours des manifestations en faveur d'Ousmane Sonko, qui a été placé en garde à vue hier à Dakar. Officiellement, c'est pour des troubles à l'ordre public qu'il aurait causé en se rendant en cortège au tribunal où il devait être interrogé sur des accusations de viol. Son arrestation a provoqué les affrontements parmi les plus sérieux qu'ait connu Dakar depuis des années. Des troubles ont été rapportés dans d'autres villes, y compris en Casamance. Ousmane Sonko, troisième de la présidentielle de 2019, est pressenti comme l'un des principaux candidats à celle de 2024, bénéficie d'un fort soutien parmi les jeunes sénégalais. À 46 ans, le chef du parti PASTEF Les Patriotes est visé depuis le mois dernier par une plainte pour viol et menace de mort déposée par une employée d'un salon de beauté dans lequel il allait se faire masser pour, dit-il, soulager ses maux de dos.
Les autorités au Niger doivent ouvrir une enquête sur la mort de deux personnes, mettre un terme aux arrestations massives et rétablir l'accès à Internet. C'est ce que déclare Amnesty International ce jeudi. Toutes les parties doivent faire preuve de retenue à cette période tendue, souligne l'ONG. Les autorités doivent par ailleurs prendre toutes les mesures nécessaires pour permettre à tous d'exercer le droit de manifester pacifiquement, a déclaré Ousmane Diallo, spécialiste de l'Afrique de l'Ouest à Amnesty International. En Côte d'Ivoire, plus de 7 millions d'électeurs sont appelés à voter samedi à des élections législatives en présence de l'opposition qui avait boycotté la présidentielle d'octobre 2020. Le point avec Yacouba Ouédraogo.
Pour la première fois depuis une décennie, presque tous les partis d'opposition participent à ce scrutin. En particulier, le Front populaire ivoirien pro-Gbagbo de l'ancien président, noyau d'une coalition appelée « Ensemble pour la démocratie et la souveraineté ». Depuis son ouverture le 26 février, la campagne qui s'achève ce soir n'a donné lieu à aucune violence et tous les partis ont appelé à un scrutin apaisé. Messieurs Bédier et Gbagbo, qui ont appelé à la désobéissance civile et boycotté la dernière présidentielle, veulent contrebalancer le parti au pouvoir à l'Assemblée. Le PDCI de Bédier a passé une alliance avec les pro-Gbagbo pour, disent-ils, empêcher la consolidation d'un pouvoir absolu de M. Ouattara et de son parti, le RHDP, majoritaire à l'Assemblée nationale, avec 167 députés sur 255. En plus du RHDP au pouvoir et de la coalition EDS en alliance avec le PDCI, il faudra compter avec le FPI de Pascal Affi-Nguessan, le mouvement COGEP de Charles Blé Goudé et d'autres partis politiques siégeant à l'Assemblée nationale.
Trois candidats de l'opposition au Tchad se sont retirés de la présidentielle du 11 avril au lendemain de la validation de leur candidature par la Cour suprême, dénonçant notamment la détérioration du climat sécuritaire. Il s'agit notamment de Théophile Bongoro Bebzouné, néophyte en politique, désigné candidat unique d'une coalition de partis d'opposition. Mahamat Yosko Brahim ne sera pas non plus candidat, de même que Ngarledji Yorongar. Six candidats s'affronteront donc pour la présidentielle, dont le sortant Idriss Déby Itno, au pouvoir depuis 30 ans. Nous y reviendrons dans notre partie magazine. Au Mali, un soldat a été tué et deux blessés jeudi lors de l'attaque du poste de sécurité des Dinangourou dans le centre du pays, proche de la frontière avec le Burkina Faso. Selon l'armée malienne, 8 assaillants ont perdu la vie dans la riposte. L'armée affirme également avoir récupéré un véhicule, 4 motos et diverses armes appartenant aux assaillants. Au Nigeria, les vaccinations contre le coronavirus doivent commencer demain vendredi par les professions à risque et les soignants. Le Nigeria a reçu mardi près de 4 millions de doses sur les 16 millions attendus contre le COVID-19 financé par le dispositif COVAX. Le premier ministre libyen par intérim Abdel Hamid Debba a annoncé jeudi avoir remis la composition de son gouvernement au Parlement en vue d'un vote de confiance des députés lundi à Sirte. Selon la feuille de route, M. Debba a jusqu'au 19 mars pour gagner la confiance d'un Parlement libyen.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le pape François a adressé jeudi un message aux Irakiens évoquant leurs années de guerre et de terrorisme et appelant à la réconciliation. C'est à la veille d'un voyage historique en Irak. Abdourahmane Dia.
Dans un message vidéo, le pape s'adresse directement aux Irakiens et se dit pressé de visiter leur terre, berceau antique et extraordinaire de la civilisation. « Je viens en pèlerin de paix en quête de fraternité », a-t-il ajouté. Il ira à la rencontre d'une communauté chrétienne fortement réduite par l'exil, la guerre et le terrorisme. Sa visite sera néanmoins virtuelle pour une grande partie des Irakiens, car le pays est placé à partir de jeudi minuit en confinement strict avec plus de 5000 cas de COVID-19 par jour. Le pape se rendra à Najaf, la capitale de l'islam chiite, où est enterré l'imam Ali, le gendre du prophète Mohammed. Il aura un entretien avec le grand ayatollah Ali Sistani, 90 ans et qui n'apparaît jamais en public. Le pape François va effectuer aussi une visite très symbolique sur la terre natale d'Abraham, qui selon lui réunit en une seule famille musulmans, juifs et chrétiens. Là, il va prier avec des dignitaires sunnites, chiites, yazidis et sabéens. Au début des années 2000, l'Irak comptait 1,5 million de chrétiens, mais aujourd'hui, il serait seulement entre 300 et 400 000, soit 1% de la population.
Les activistes pro-démocratie sont de nouveau descendus dans la rue en Birmanie pour protester contre le coup d'état militaire du 1er février, au lendemain de la journée la plus sanglante depuis le début des manifestations. Au moins 38 personnes ont été tuées hier selon les Nations Unies. Malgré tout, les militants continuent de faire pression pour obtenir la libération de la dirigeante démocratiquement élue Aung San Suu Kyi. 9 militaires turcs, dont un officier de haut rang, sont morts jeudi quand l'hélicoptère qui les transportait s'est écrasé dans le sud-est de la Turquie. C'est ce qu'a annoncé le ministère de la Défense, évoquant un accident. Ici aux États-Unis, la sécurité a été renforcée et les votes de certaines lois ont été avancés au Congrès après l'alerte de la police sur un possible projet d'une milice d'attaquer ce jeudi le Capitole. Des membres du mouvement conspirationniste QAnon, qui n'ont jamais accepté la victoire de Joe Biden, pense en effet que le 4 mars, Donald Trump devrait être investi pour un second mandat. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOAfrique et VOAfrique.com. L'actualité économique en Afrique et dans le monde, on en parle dans la Minute Éco qui vous est présentée ce soir par Claire Morin-Gibourg.
Le ministère de l'Agriculture gabonais a lancé une campagne d'immatriculation des agriculteurs pour, selon le ministre Biendi Maganga Moussavou, leur donner une existence juridique et qu'ils puissent bénéficier du soutien de l'État. Cette campagne intervient à la suite de la signature d'un arrêté fixant les conditions d'exonération des droits et taxes sur les intrants agricoles. L'objectif du gouvernement est que le monde rural contribue davantage à l'économie du pays. En 2020, les expéditions africaines de bananes vers l'Union européenne ont décliné. Les trois principaux exportateurs, la Côte d'Ivoire, le Cameroun et le Ghana, ont envoyé vers le marché communautaire un volume en baisse de 600 000 tonnes. En dehors des perturbations logistiques liées à la crise sanitaire du coronavirus, cette contre-performance est liée à une production plus faible du fait de conditions météorologiques peu clémentes, notamment du côté du Ghana. En Côte d'Ivoire, le Conseil Café Cacao a facilité l'indemnisation des populations de Kablaké et Poro qui se disaient spoliées de leurs terres suite à l'aménagement de leur zone pour la construction de l'usine de transformation Transcao. Cette nouvelle unité industrielle a permis 300 emplois directs et 1000 indirects et devrait à terme atteindre une capacité de 100 000 tonnes.
À présent, la page des sports avec Yacouba Ouédraogo.
Bonsoir à tous. L'international ivoirien Franck Kessier a sauvé le Milan AC hier en Serie A. Privé de leur buteur, le Suédois Zlatan Ibrahimovic, blessé à l'adducteur gauche, les Milanais ont été surpris à domicile par l'Udinese qui a ouvert le score. Les hommes de Stefano Pioli ont évité la défaite de justesse grâce à leur milieu de terrain ivoirien Franck Kessier qui a égalisé à la 96e minute sur penalty. Les Rossoneri, toujours dauphins de leur rival l'Inter avec 53 points, voient revenir la Juventus. Juventus, troisième avec 49 points et un match en retard après sa victoire 3-0 contre Spezia mardi. De son côté, l'AS Rome a arraché la victoire 2-1 sur la pelouse de la Fiorentina grâce à un but d'Amadou Diawara à la 90e minute pour s'accrocher au wagon de tête. Le régime fiscal dont ont bénéficié pendant 25 ans le FC Barcelone, le Real Madrid et deux autres clubs de football espagnol constitue une aide illégale de l'État espagnol. C'est ce qu'a affirmé la justice européenne rejetant définitivement un recours du Barça. Elle juge que la Commission a eu raison de reprocher à l'Espagne l'absence de notification du régime fiscal particulier dont bénéficient le Barça, le Real, l'Athletic Bilbao et Osasuna. En 1990, en effet, une loi espagnole a obligé les clubs sportif professionnel à se transformer en société anonyme sportive, rappelle la Cour de justice. Mais quatre clubs ont préféré faire valoir une exception à la loi leur permettant de continuer à opérer comme personne morale sans but lucratif afin de bénéficier d'un taux spécifique d'imposition de leurs revenus. Ici, en NBA, James Harden, auteur d'un triple-double, 29 points, 14 passes décisives et 10 rebonds, face à Houston, son ancienne équipe a permis aux Brooklyn Nets de l'emporter 132-114. Immense Joel Embiid à Philadelphie, le centre camerounais a marqué 40 points pour permettre aux Sixers leader à l'est, de dominer Utah 131 à 123 après prolongation. Mauvaise soirée par contre pour les Lakers. Sans LeBron James et Anthony Davis blessés, les champions en titre ont chuté 123 à 120 contre Sacramento. L'autre match 100% West Coast a tourné à l'avantage de Portland, vainqueur 108 à 106 de Golden State. Le meneur d'Indiana, T.J. McConnell, s'est illustré lors de la victoire 114-111 contre Cleveland avec un insolite triple-double, 16 points, 13 rebonds et 10 interceptions.
Merci, Yakuba. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. John Linden, toujours en votre compagnie. À présent, les dossiers du jour. Et on commence par le Tchad, où la Cour suprême a validé 10 candidatures sur 17 pour l'élection présidentielle d'avril prochain. Le processus a été maillé par des violences contre un candidat de l'opposition, Yahya Diallo, à son domicile, où au moins 2 personnes ont été tuées. Cela a amené 3 autres candidats de l'opposition à se retirer de la course. Mais curieusement, leur nom figure toujours sur la liste des candidats éligibles. Le reportage d'André Kodmajinger, correspondant de VOA Afrique en N'Djamena.
Maître Théophile Bongourou de l'Alliance Victoire, Salih Kebzabo de l'UNDR et Garledi Yurongar du FAR, Parti Fédération, qui ont annoncé leur retrait de la compétition pour dénoncer l'injustice sociale et l'insécurité des candidats de l'opposition, avant même la clôture de l'audience, ont vu leur dossier retenu par la Cour suprême. Réaction de Maître Théophile Bongourou.
On s'attendait à ce qu'on nous décline la liste le 8, parce que dans la loi, il faut une semaine plus tard. Mais qu'est-ce qui a justifié la précipitation pour qu'on puisse rendre publique la liste des candidats alors que avant que cette audience même ne soit clôturée, nous on s'est attaché le service d'un huissier pour qu'il y ait date certaine et l'heure dont on a déposé notre retrait autour de midi 13h. Comment se fait-il qu'à 16h on nous dit qu'on est éligible pour être candidat? Il faut être sérieux. Nous on va revendiquer nos 10 000.
Maître Théophile Bongourou précise par ailleurs que l'affaire Yahya Diallo est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, puisqu'il y avait d'autres revendications comme la nomination d'un président de la CENI véritablement indépendant et la garantie de tous les candidats de battre campagne en toute sécurité dans le Tchad profond. Brice Mbaye-Mogadambaye, candidat de l'Alliance républicaine pour le changement démocratique, estime que la décision de se retirer de la course prise par certains de ses compagnons semble prématurée.
La question a été posée et nous avions dit qu'il fallait attendre que la Cour suprême rende la liste publique. À partir de ce moment-là, nous allons nous concerter et prendre une décision collective. Est-ce qu'en jouant aux défaitistes, on pourra arriver à vaincre cette dictature?
3 candidatures qui gênent le pouvoir ont été invalidées. Il s'agit du docteur Succès Masra de Yahya Diallo et de l'ex-chef de guerre Babalade. Docteur Succès Masra se tourne vers le peuple qui, selon lui, aura le dernier mot.
Ce qui reste au peuple, c'est de rendre ces élections impossibles. Et sinon, de rendre le pays ingouvernable. Jusqu'à ce que M. Déby revienne à la raison parce qu'il a tué sa sœur, qui est la maman de Yahya Diallo. Il a tué son petit-fils, qui est le fils de Yahya Diallo. Donc, qui peut défendre un régime pareil s'il n'a pas vendu son âme?
Pour l'expert en question électorale Doumla Ibra Laurent, le retrait à la dernière minute des candidats dans ce processus risque de jouer sur la crédibilité et la légitimité de celui qui sera élu.
Les candidats qui se sont retirés, c'est quand même des grosses pointures. Et donc, il faut absolument arriver à décrisper un peu la situation pour que le processus soit un processus inclusif, participatif. Mais tel que c'est parti, ça va jouer sur le taux de participation. Et donc, il va falloir absolument que les acteurs politiques s'asseyent sur une table de négociation.
Le parti au pouvoir dit se tenir droit sur ce vote pour aller à cette élection et qualifie ceux qui ont gelé leur participation d'être en mal de popularité. André Kodumadingar N'Djamena pour VOA Afrique.
Votre rendez-vous quotidien 24h/24 sur VOA Afrique à N'Djamena au Tchad sur 93.1 FM.
Des manifestants continuent à descendre dans les rues en Birmanie au lendemain de la journée de répression la plus meurtrière, avec au moins 38 manifestants tués d'après l'ONU. L'armée semble plus déterminée que jamais à éteindre le vent de fronde qui souffle sur le pays depuis le coup d'État du 1er février contre le gouvernement civil d'Aung San Suu Kyi. Pour une analyse, Eric Manirakiza a joint en France le professeur de l'Université catholique de Lille et spécialiste de l'Asie, Barthélémy Courmont.
on joue à qui tout double du côté de la junte militaire. C'est-à-dire que soit le coup d'État réussit, auquel cas la junte va pouvoir installer durablement un régime militaire et retrouver un petit peu l'image de la Birmanie qui était encore la sienne il y a une dizaine d'années. Soit ça ne marche pas, soit l'opposition de la rue l'emporte et les militaires là s'exposent à des représailles assez importantes, hein, puisqu'on sait que les forces démocratiques birmanes souhaitent par exemple modifier cette fameuse constitution qui a été mise en place en 2007 et qui octroie aux militaires des pouvoirs extrêmement importants. C'est pour ça qu'il n'y a pas de dialogue possible. C'est ou l'un ou l'autre.
Est-ce que les sanctions déjà prises par certaines puissances occidentales vont pouvoir faire réfléchir à ces militaires?
Alors oui et non, même si les militaires essayent aujourd'hui de limiter l'accès à Internet et à toute forme d'information, on sait malgré tout dans la population birmane que par le biais de ces sanctions et puis par le biais de très nombreuses déclarations de chefs de gouvernement dans les pays occidentaux, on soutient le mouvement démocratique et on soutient ces manifestations contre les militaires. Donc plus on va aller dans ce sens, plus effectivement la détermination des manifestants va pouvoir s'installer. Donc en ce sens, c'est évidemment quelque chose qui peut être tout à fait positif. Oui aussi, parce que les militaires en Birmanie sont des acteurs de l'économie birmane. C'est évidemment un demi-siècle de pouvoir militaire qui leur a permis de s'installer dans tous les rouages de l'économie de ce pays. Donc ça peut être positif. Cependant, le risque, c'est de voir, je dirais en conséquence ou en effet de ces sanctions et de cet isolement, la Birmanie se rapprocher davantage de son principal partenaire économique, qui est la Chine. On a vu que la Chine, pour l'heure, refuse d'accompagner une politique de sanctions frappant la Birmanie. Et donc, la Chine reste tout simplement une alternative pour les militaires birmans dans le cas où les échanges avec d'autres pays se verraient limités. Donc, je dirais oui, c'est une bonne chose. Il n'y a pas d'autre solution, j'ai envie de dire, à l'heure actuelle. Mais on ne peut pas non plus trop compter là-dessus pour faire plier la junte. Ça ne suffira pas.
Et qu'est-ce qui pourrait faire plier la junte?
C'est la rue. C'est clairement la détermination de la population. Puis, la détermination des Birmans reste très forte. Si leur mobilisation reste très fort, les militaires ne vont pas pouvoir incarcérer des millions de personnes. Ils ne vont pas pouvoir faire taire un mouvement qui va comme ça totalement pourrir l'activité de ce pays. Les Birmans sont parvenus presque tout seuls à accéder à la démocratie il y a maintenant une décennie. Ils ont d'une certaine manière le pouvoir de faire plier la junte. Tout va dépendre effectivement de ce à quoi est prêt le pouvoir militaire en Birmanie. S'ils sont prêts à commettre des massacres à très grande échelle, pas 38 morts comme on a eu hier, mais des milliers, des dizaines de milliers de morts, et puis une politique d'internement à très très grande échelle, on risque peut-être à terme de voir le mouvement s'essouffler.
Barthélémy Courmont, professeur à l'Université catholique de Lille et spécialiste de l'Asie. Les législateurs républicains de plusieurs États font pression pour faire passer des projets de loi considérés comme pouvant restreindre le vote après la participation record aux élections de 2020, dont l'issue a permis aux démocrates de prendre la Maison-Blanche et le contrôle du Congrès américain. Khan Farabot de la VOA rapporte que l'Iowa est l'un de ces États à avoir examiné un texte qui pourrait limiter l'accès au vote. Le récit est signé Jacques Aristide.
Plus de 2 millions d'électeurs de l'Iowa se sont inscrits pour voter aux élections générales de 2020, un record dans un État comptant un peu plus de 3,1 millions d'habitants. Sur 1,7 million de bulletins de vote déposés dans l'État en novembre dernier, plus d'un million ont été soumis par la poste, également un record, car de nombreux électeurs ont évité les urnes pendant la pandémie. Le républicain Donald Trump a remporté l'Iowa, mais a perdu l'élection présidentielle face au démocrate Joe Biden. Désormais, les républicains qui contrôlent la législature de l'État de l'Iowa ont adopté un projet de loi limitant le vote anticipé en personne et raccourcissant le temps alloué au vote par correspondance, entre autres dispositions. Bobby Kaufman est un élu républicain de l'Iowa.
Mais le travail du comité du gouvernement de l'État est d'assurer l'intégrité des élections. Vous regardez ce que vous avez bien fait, ce que vous avez mal fait, et vous apportez des améliorations, et c'est exactement ce que nous faisons ici aujourd'hui.
Pour les républicains, il s'agit d'un moyen de lutte contre toute fraude électorale éventuelle, mais les démocrates, eux, le voient comme une suppression du vote. Eric Guerdet, un élu démocrate de l'Iowa.
Nous voulons rendre le droit de vote aussi facile que possible pour chaque électeur de l'Iowa. J'ai de nombreux électeurs qui exercent plusieurs emplois, qui sont parents et qui ont besoin de flexibilité pour voter lorsqu'ils en ont le temps.
Les démocrates n'ont pas pu éliminer ce qu'ils considéraient comme des restrictions au vote. Le projet de loi a été adopté à la Chambre des représentants et au Sénat de l'Iowa. À Washington, des démocrates tirent la sonnette d'alarme. John Ossoff, sénateur démocrate nouvellement élu en Géorgie, a indiqué qu'un projet de loi dans son État découragerait de manière disproportionnée le vote des minorités.
For example,
une législation qui rendrait plus difficile le vote, par exemple, en mettant fin au vote anticipé le dimanche, auquel ont largement recours des électeurs noirs et de la classe ouvrière.
La Géorgie et l'Iowa font partie des dizaines d'États où les républicains cherchent à réécrire les lois électorales. L'avocate Michelle Cantor-Cohen du Fair Election Center.
C'est assez répandu et ce n'est pas surprenant pour moi, ayant travaillé dans ce domaine des droits de vote pendant un certain temps, de voir un retour de bâton contre une élection à un taux de participation élevé.
Jessica Huseman de VoteBeat, un média indépendant, est d'avis que toutes les réformes proposées ne sont pas problématiques.
Il y a beaucoup d'États, par exemple, dont les délais pour demander les bulletins de vote par correspondance étaient irréalistes, étant proches du scrutin. Mais il n'est certainement pas nécessaire de changer de larges pans du système électoral que nous avons actuellement.
Les réformes du vote dans l'Iowa attendent la signature du gouverneur républicain de cet État. D'après Jessica Huseman, d'autres États américains vont emboîter le pas avant les élections de mi-mandat de 2022.
Et c'est la fin de ce journal. À la mise en nom de Lionel Gaïma, Michel Joseph, Georges Léonard Sagnot et Joselle Morissin. À la présentation, John Linden, édition en chef, Idriss Fall. On reste en contact sur Facebook et rendez-vous également sur notre site internet voafrique.com pour l'actualité 24 heures sur 24.
Ici Washington, la voix de l'Amérique. Voici un éditorial reflétant le point de vue du gouvernement des États-Unis.
S'exprimant lors de la récente conférence virtuelle de Munich sur la sécurité, le président Joe Biden a déclaré que la menace de prolifération nucléaire continue d'exiger une diplomatie et une coopération prudentes afin de minimiser le risque de malentendus ou d'erreurs stratégiques. C'est pourquoi nous avons dit que nous étions prêts à reprendre les négociations avec le P5+1 sur le programme nucléaire iranien. Nous devons également nous attaquer aux activités déstabilisantes de l'Iran à travers le Moyen-Orient et nous allons travailler au fur et à mesure en étroite coopération avec nos partenaires européens et d'autres. Les remarques du président Joe Biden sont intervenues le lendemain de la publication par les États-Unis, l'Allemagne, la France et la Grande-Bretagne d'une déclaration exprimant leur objectif commun d'un retour de l'Iran au plein respect de ses engagements dans le cadre de l'accord sur le nucléaire iranien de 2015. Les quatre puissances ont noté la déclaration du président Biden selon laquelle si l'Iran revenait à la pleine conformité, les États-Unis feraient de même et sont prêts à engager des discussions avec l'Iran à cette fin. Les États-Unis ont cessé de participer aux traités sur le nucléaire iranien en 2018, réimposé les sanctions économiques qui avaient été levées dans le cadre de l'accord et imposé de nouvelles sanctions à l'Iran. Ils ont également imposé des restrictions de voyage aux diplomates iraniens et pris des mesures pour initier la reprise ou la réimposition des sanctions multilatérales de l'ONU contre l'Iran. Ces derniers mois, l'Iran a pris une série de mesures dépassant les limites de l'accord, y compris l'enrichissement de l'uranium, à près de 20%, bien au-delà de ce qu'il s'était engagé à faire, ainsi que la production d'uranium métal, un processus avec des applications pour des armes nucléaires. Afin d'éliminer les obstacles à la diplomatie, les États-Unis ont annulé le 18 février les restrictions de voyage imposées par l'ancienne administration aux représentants iraniens. Les États-Unis ont également annoncé qu'ils avaient revu la position de l'administration précédente sur la reprise des sanctions multilatérales de l'ONU contre l'Iran. L'Union européenne s'emploie actuellement à mettre en place des pourparlers informels qui incluraient l'Iran et les pays du groupe des 5+1, les États-Unis, le Royaume-Uni, la France, l'Allemagne, la Chine et la Russie, dans le but de rétablir l'accord de Vienne de 2015. Le conseiller américain à la sécurité nationale, Jake Sullivan, a souligné que le président Joe Biden est déterminé à empêcher l'Iran de se doter d'une arme nucléaire et que le président est prêt à parler car il pense qu'une diplomatie intransigeante et lucide est le meilleur moyen de le faire.
C'était un éditorial reflétant le point de vue.